Chapitre 10. La veillée de la Seulière. La porte s'ouvrit avec fracas, et, sur le seuil, illuminé par la vive lueur des lampes, Mathurin Lumineau apparut. L'entrée d'un revenant n'aurait pas produit plus d'effet. Le bruit cessa tout à coup, les filles, effarées, s'écartèrent et se groupèrent le long des murs. D'étonnement, plusieurs gars ôtèrent leurs chapeaux, qu'ils avaient gardés pour danser. Des métayères se levèrent à demi des chaises où elles étaient assises. On hésitait à reconnaître le nouvel arrivant à pareille heure et dans ce lieu. Lui, brusquement frappé par l'air chaud, las et rouge, mais fier de la stupéfaction qu'il provoquait, droit sur ses béquilles, riant dans sa barbe rousse, il dit d'une voix éclatante « Salut à tous !» Puis, s'adressant aux femmes groupées qui se penchaient au fond de la salle et caquetaient déjà, « Qui veut danser une ronde avec moi, mes galantes? Qu'avez-vous à me regarder comme ça? Je ne reviens pas, j'amène mon frère, le Baudriot, pour faire vis-à-vis. » On le vit s'avancer, et, derrière lui, le dernier fils de la Fromentière, mince et haut, la main au front, saluant militairement. Alors, dans toute la salle, ce furent des éclats de rire, des questions, des bonjours. Les danseuses se précipitèrent vers eux aussi vite qu'elles s'étaient écartées. Des mains d'hommes se tendirent de toutes parts. Les éclats sonores de la voix du vieux Gauvry dominèrent le tumulte. Du fond de la seconde chambre, il criait, déjà un peu pris de vin, « La plus belle fille pour danser avec Mathurin ! La plus belle, qu'elle se montre !» Ce ne fut pas pour obéir à son père que Félicité Gauvry s'avança. Mais, un instant décontenancée par cette brusque entrée, observée par les femmes et par les hommes, elle comprit qu'elle devait payer d'audace et, s'approchant de Mathurin Lumineau, ses yeux noirs dans les yeux de l'infirme, elle lui jeta les bras autour du cou et l'embrassa. « Je l'embrasse, dit-elle, parce qu'il a plus de courage que la moitié des gars de la paroisse. C'est moi qui l'avais invité. » Étourdi, enivré par tous les souvenirs qui s'éveillaient en lui, Mathurin se déroba une fois de plus. On le vit pâlir et, tournant sur ses béquilles, fendre le groupe d'hommes qui se trouvait à sa gauche en disant « Place, place, mes gars, je veux m'asseoir. » Il s'assit dans la seconde chambre à côté de plusieurs anciens, dont le vieux Gauvry, qui s'écartèrent et, pour première marque de bienvenue, lui versèrent un plein verre de vin blanc de Salertaine. Selon l'usage et la formule consacrée, il leva le verre et dit, tout pâle encore, « À vous tous, je bois de cœur et d'amour. » Bientôt, il parut oublier et les danses reprirent. La métairie où l'on veillait, une des plus neuves du Marais, était divisée en deux pièces inégales. Dans la plus petite, quelques hommes, retirés des plaisirs bruyants de la danse, buvaient et jouaient des parties de luette avec le maître de la maison. Dans l'autre, par où les Lumineaux venaient d'entrer, on dansait. Les tables avaient été rangées le long des murs entre les lits. Les rideaux de ceux-ci, relevés de peur des accrocs, s'étalaient sur les courtes pointes. Une demi-douzaine de matrones, qui avaient accompagné leurs filles, se tenaient autour de la cheminée devant un feu de bouse sèche, le bois de ce pays sans arbres. Et sur la plaque du foyer, chacune avait sa tasse où elle buvait à petits coups du café mélangé d'eau-de-vie. En arrière, des lampes à pétrole posées un peu partout éclairaient les groupes des danseurs. Ils étaient à l'étroit. Une atmosphère fumeuse, une odeur de sueur et de vin remplissait la maison. L'air glacé du dehors soufflait par le bas de la porte et, parfois, faisait frissonner les maraîchines sous leurs lourdes robes de laine. Mais peu importait. Dans la salle, c'était un débordement de rires, de paroles et de mouvements. Jeunes gens, jeunes filles, ils venaient des fermes isolées, bloquées par l'inondation périodique. Ils étaient là de repos et de rêve. Une fièvre agitait ces reclus, pour peu de temps échappés et rendus à la vie commune. Tout à l'heure, sur l'immense nappe tremblante et muette, toute cette joie se disperserait. Ils le savaient, ils profitaient de l'heure brève. Les danses recommencèrent donc, tantôt la maréchine, sauterie à quatre, espèce de bourrée ancienne que les assistants soutenaient d'un bourdonnement rythmé, tantôt des rondes chantées par une voix d'homme ou de femme, reprises en chœur et accompagnées par un accordéon que manœuvrait un gamin de 12 ans, bossu et souffreteux. Tantôt des danses modernes, quadrilles ou polka, pour lesquelles il n'y avait qu'un seul air dont la mesure seule variait. La plupart des jeunes filles dansaient bien, quelques-unes avec un sentiment vif du rythme et de l'attitude. Autour de leur ceinture, les plus soigneuses et les mieux habillées avaient noué un mouchoir blanc pour que le danseur ne gâtât pas l'étoffe de la robe quand, Après chaque refrain, il enlevait sa danseuse à bout de bras et la faisait sauter le plus haut possible, afin de montrer la légèreté des maraîchines et la force des maraîchins. On se retrouvait, gens de la même paroisse et du même coin, on poursuivait les intrigues de l'hiver précédent, on se parlait d'amour pour la première fois, on se donnait rendez-vous au marché de Chaland ou à quelques veillées prochaines dans une autre ferme, on se montrait les nouveaux venus. Parmi ces derniers, André Lumineux était le plus recherché, le plus gai, le moins embarrassé pour inventer des choses drôles et les dire. Les heures passaient. Deux fois, le père Gauvry avait traversé les deux chambres, ouvert la porte et prononcé « La lune monte et on la verra bientôt, le vent s'élève et il gèle dur ». Puis il était revenu prendre sa place autour de la table où les joueurs de luette l'attendaient, entre deux armoires. Mathurin Lumineux avait consenti à jouer, mais il jouait distraitement et regardait moins ses cartes qu'il ne guettait le passage, les mots, les gestes de Félicité Gauvry. Déjà, à plusieurs reprises, l'habile et superbe fille s'était arrêtée avec son danseur dans la seconde pièce pour échanger quelques paroles avec Mathurin. Elle rayonnait d'orgueil. Sur sa figure hardie, régulière, qui dominait la plupart des bonnets de tulle, elle portait la joie de son triomphe car, après 6 ans, la folie d'amour qu'elle avait inspirée durait encore et lui ramenait les fils de la Fromentière. Il était 10 heures. Une petite maraîchine, au visage rousselé comme le plumage d'une grive, lança les premières notes d'une ronde. Quand j'étais chez mon père, petite à la maison, m'en fus à la fontaine pour cueillir du cresson. 20 voix de jeunes gars et autant de voix de femmes reprirent en chœur « Les cannes, les cannes, les canetons, les cannes de mon père dans les marais s'en vont. » Et la ronde tourna dans les deux chambres. À ce moment, Félicité Gauvry, qui avait refusé de prendre place dans la chaîne des danseurs, s'approcha de la table où était Mathurin et celui-ci, aussitôt, jeta les cartes à un de ses voisins et se leva entre ses béquilles. « Restez, Mathurin, » dit-elle. « Ne vous gênez pas pour moi, je viens les voir danser. » Mais elle avançait une chaise dans le coin de la pièce et aidait Mathurin à s'y asseoir et elle-même s'asseyait près de lui. Ils étaient dans la demi-ombre que projetait l'armoire. L'infirme ne regardait point Félicité Gauvry et elle ne le regardait pas davantage. Ils se trouvaient côte à côte, devant l'armoire de cerisier, et leurs yeux semblaient s'intéresser à ces danseurs qui passaient et repassaient dans la chambre. Mais ce qu'ils voyaient, c'était tout autre chose. L'un le passé, les rendez-vous d'amour, les serments échangés, le retour de Chaland dans la charrette, l'affreuse souffrance prolongée pendant des années, l'abandon qui prenait fin en 7 minutes même. L'autre apercevait l'avenir possible et peut-être prochain, les salles de la Fromentière où elle commanderait, le banc d'église où elle trônerait le dimanche, les saluts qu'elle recevrait des filles les plus fières du pays et le mari qu'elle aurait, ce cadet des Lumineux, André, qui menait là-bas la ronde avec une enfant de 15 ans, celle qui chantait les couplets. Mathurin parlait à voix basse, par petits mots que l'émotion coupait de silence. Et il était pâle et il avait peur que cette minute de bonheur ne fût déjà finie. La fille de la Selière, les mains à plat sur son tablier, grave, réservée, répondait sans se hâter des phrases que personne n'entendait. Bien des yeux se tournaient vers le couple étrange que formaient les fiancés d'autrefois. La ronde tournait, le refrain faisait sonner les murs, la voix claire et rieuse de la petite maraîchine chantait. La fontaine est profonde, coulée y suit au fond, par le chemin il passe, 3 cavaliers barons. Que donnerez-vous, belle, et puis nous vous tirerons? « Retirez-moi, dit-elle, après ça nous verrons. » Quand la belle fut tirée, s'en fut à la maison, se mit à la fenêtre, chantit une chanson. « Ce n'est point ça, la belle, que nous vous demandions, ce sont vos amitiés si nous les méritons. » La danse s'animait de plus en plus. Les grands gars maraîchins prenaient les jeunes filles par la taille et les faisaient sauter si haut que les coiffes de mousseline touchaient le plafond. Les commères buvaient une dernière tasse de café. Les joueurs de luette regardaient la sarabande se démener dans la poussière, dans la lumière inégale des lampes qui fumaient. Mathurin et Félicité, plus rapprochés, causaient toujours. Mais la fille de la Selière avait abandonné une de ses mains entre celles de l'infirme. Et c'étaient les mains velues et démesurées qui tremblaient, et c'était la petite main blanche qui semblait ne pas comprendre ou ne pas vouloir répondre. La ronde finissait. « Mes amitiés, dit-elle, sont point pour des barons, elles sont pour le gars Pierre, le valet de la maison. » Félicité, pour la première fois, regarda Mathurin et dit en riant d'un ton de confidence « C'est l'histoire de Rousy, cette chanson-là. »« Vous ne savez pas ce qu'elle voulait ?» repartit vivement Mathurin. « se marier avec notre valet, devenir la maîtresse de la Fromentière. Mais moi, je veillais, j'ai fait chasser le Jean-Némy. Et je vous jure qu'il ne reparaîtra pas de sitôt à la maison. À présent ?» Il baissa la voix, il se pencha, le bout de ses cheveux fauves toucha la pointe du bonnet blanc qui ne recula pas. « À présent, si tu veux encore de moi, Félicité, c'est toi qui seras la maîtresse de la Fromentière. » Elle n'eut pas le temps de préparer une réponse. Elle se trouva debout. Le dernier refrain de la ronde avait fini dans un murmure d'étonnement. Un homme était entré et s'était avancé dans la première chambre jusqu'au milieu. Il dépassait les groupes de toute sa tête blanche, coiffée du chapeau qu'il n'avait pas même touché du doigt en entrant. Ses vêtements étaient couverts de gelée. Sur le bras gauche, il portait un vieux manteau, une loque brune qui pendait. Et, sévère de visage, les yeux demi-fermés à cause de l'éclat des lumières, il cherchait quelqu'un. Tous s'écartèrent devant le métayer de la Fromentière. « Mes gars sont ici ? » demanda-t-il. « Oui donc ? » répondit une voix derrière lui. « Me voici, père. »« Bien, Drio, » fit l'ancien sans se retourner. « Je n'ai pas peur pour toi, quoique ça ne soit pas ici la place de mes enfants. » Mais en vérité, il gèle à croire que tout le marais sera pris avant le soleil levant, et Mathurin pourrait en mourir blessé comme il est. Pourquoi l'as-tu amené ? Dans le silence de tous, le métayer parcourut du regard la grande salle. Un mouvement de quelques-uns des assistants lui désigna Mathurin au fond de la salle voisine. Le père aperçut l'infirme et, près de lui, celle qui avait été cause de tant de souffrances et de larmes. « La garce, » murmura-t-il, « elle l'aguiche encore. » Et il fendit impérieusement les groupes, ses épaules rejetant les danseurs à droite et à gauche. « Gauvry, » dit-il en saluant de la tête le bonhomme qui s'était levé et s'avançait en titubant. « Gauvry, ça n'est pas pour te faire un affront, mais j'emmène mes gars. La mort est dans le marais par des temps pareils. « Je ne pouvais pas empêcher tes fils de venir, » balbutia Gauvry. « Je t'assure, Toussaint Lumineau. » Sans l'écouter, le métayer haussa la voix. « Hors d'ici, Mathurin, » dit-il. Et prends la couverte que j'ai apportée pour toi. » Il jeta le vieux manteau ruiné sur les épaules de l'infirme, qui se leva sans mot dire comme un enfant et suivit le père. Les assistants, quelques-uns moqueurs, la plupart émus, regardaient cet ancien qui, à travers tout le marais, venait arracher son fils à la veillée de la Celière. Des filles disaient entre elles, « Il n'a pas eu seulement une parole pour la félicité. » D'autres, « Il devait être beau quand il était jeune. » Il y eut une voix, celle de la petite qui avait chanté la ronde, qui murmura. André est tout le portrait de son père. Ni Toussaint Lumineau ni ses fils n'entendirent. La porte de la Celière se refermait derrière eux. Il tombait brusquement dans la nuit où courait le vent glacé. Les nuages étaient remontés très haut, emportés à une allure désordonnée, fondus en larges masses, ils formaient des nappes d'ombre successives dont la lune argentait les bords. Le froid pénétrait les vêtements et traversait la chair. La mort passait pour les plus faibles. Le métayer qui savait le danger dégagea au plus vite les deux yoles arrêtées parmi d'autres au port de la Celière. Il monta dans la première, fit signe à Mathurin de se coucher au fond et poussa au large. L'infirme obéit encore. Pelotonné sur le plancher du bateau, couvert du manteau de laine, il ressembla bientôt, immobile, à un morceau de goémon. Mais, sans qu'on y prît garde, il s'était étendu, la tête tournée du côté de la Celière et, soulevant d'un doigt l'étoffe qui le protégeait, il regardait la ferme. Tant que la distance et les talus des canaux lui permirent de distinguer la raie lumineuse de la porte, il demeura les yeux attachés sur cette lueur pâlissante qui lui rappelait maintenant un souvenir nouveau. Puis le manteau retomba, couvrant le visage joyeux et en larmes de l'infirme. André suivait dans la seconde yole. Par les mêmes fossés, le long des mêmes prés, il repassait, luttant contre les rafales de vent qui soufflaient. La tempête se déchaînait et empêchait la glace de s'étendre. Le métayer, qui n'avait plus l'habitude de yoler, n'avançait pas beaucoup. De loin en loin, il disait « Tu n'as pas trop froid, Mathurin ?» Et, d'une voix un peu plus haute, « Es-tu toujours là, André ?» Dans le sillage, une voix jeune répondait « Ça va !» La fatigue était grande, mais il s'y mêlait de la joie de ramener les deux fils. Le métayer, sans raison apparente, et bien qu'il fût des semaines sans penser à elle, songeait en ce moment à la mère Lumineau. « Elle doit être contente de moi, » rêvait-il, « parce que j'ai enlevé Mathurin à la Celière. » Et parfois il croyait voir, au détour des canaux, des yeux bleus pareils à ceux de la vieille mère, qui souriaient et puis s'inclinaient et se couchaient avec les roseaux sous l'aïeul. Alors il s'essuyait les paupières avec sa manche, il se secouait pour dissiper l'engourdissement qui le saisissait, et il répétait à l'un de ses enfants « Es-tu toujours là ?» Le second fils, lui, ne rêvait pas. Il réfléchissait à celui qu'il venait de voir et d'entendre, à la passion insensée de Mathurin, à la violence de cet homme qui rendrait difficile, quand le père ne serait plus, la vie d'un chef de ferme à la Fromentière. Ce soir-là, dans son esprit inquiet, la tentation des terres nouvelles avait encore grandi. Les yoles, avec le temps, gagnèrent le pré aux cannes.